Merci messieurs et merci monsieur Marin pour ce témoignage qui lance le débat. Alors pour affronter cette question redoutable des élèves qui sont en difficulté, je ne dis pas en non-réussite, je ne fais pas d'euphémisme, qui sont en difficulté en EPF, on a souhaité avoir des éclairages donc de monsieur du premier degré Patrick Houbin, CPD, de Eva Dorimet, qui est une enseignante de PS en lycée professionnel, donc elle va pouvoir parler des deux types de populations. Je l'ai invitée parce que je sais qu'elle est très intéressée par ces questions, et mon collègue Michel Armand, qui est donc IPR, qui aussi est sensibilisé. J'ai fait le choix de poser à ces trois intervenants les mêmes questions. Donc la première question, pour qu'on puisse voir si les problématiques se déclinent avec des ressemblances ou s'il y a des différences en fonction des niveaux d'enseignement. Première question, c'est la suivante. Quels sont les comportements types et attitudes types d'un élève qui est en difficulté en EPS? Pour le premier degré d'abord, Patrick, quel comportement observe-t-on et qu'est-ce qui permet de détecter ces difficultés?
J'ai jamais été aidé par un recteur d'inspecteur général. Une question difficile.
Sois sérieux, Patrick.
Oui, je suis très sérieux. C'est une question très difficile et à laquelle, en fait, je ne me suis pas confronté parce que, comme j'ai plutôt une attitude positive, je me dis, notre rôle, c'est de faire en sorte que tous les élèves soient en situation de réussite. Et l'échec de l'élève, c'est d'abord l'échec de l'enseignant. À partir de là, j'ai fait comme on fait tous, lorsqu'on se pose une question et on cherche des réponses auxquelles on n'a pas matière, et bien on tape sur Google, et c'est ce que j'ai fait. Je suis allé sur Google, et puis j'ai marqué échec en éducation physique, école primaire, et je n'ai rien trouvé. Par contre, sur le second degré, il y a plein de choses, il y a plein de littérature. Je me suis dit, ben, il n'y a pas de problème, il n'y a pas d'échec en éducation physique à l'école primaire. Sauf que notre quotidien nous ramène peut-être, sur ce que l'on voit, à peut-être des situations où tous nos élèves ne sont pas en situation de réussite. Et puis, j'ai échangé avec mes collègues, je me suis reposé la question, et puis peut-être qu'on s'est dit que peut-être l'échec scolaire à l'école primaire, elle n'est pas en éducation physique, elle est ailleurs. Et peut-être qu'il y a un effet de compensation entre, puisque l'enseignant, le professeur des écoles et les élèves, ces 25 élèves, vivent ensemble toute une année, 6 heures par jour ou 5 heures par jour, 4 jours et demi ensemble, sur toute une année, ils vivent et il y a besoin de créer un consensus et de créer un climat de confiance. Et déjà, si, c'est une analyse qui en vaut une autre, un jour, c'est celle que j'ai posée. Peut-être que si, pour certains élèves, le professeur les accompagne, parce qu'ils sont plus en difficulté sur des disciplines plus académiques, la lecture, les mathématiques, le français, etc., peut-être qu'il n'a pas envie de les mettre en difficulté sur l'ensemble des disciplines. Et que l'éducation physique, au contraire, ça va être un moment ciment où on va essayer de vivre bien ensemble. Voilà un petit peu ce que j'ai pensé du rôle de l'éducation physique. Voilà. Alors, à partir de la question qui était posée, les attitudes typiques, bon, on en voit, on en a vu une encore mardi hein, sur le film qui nous était proposé, c'est l'élève qui s'exclut. L'élève qui ne rentre pas dans l'activité ou qui sort de l'activité. Alors, il faut savoir qu'à l'école primaire, certainement que les sentiments exprimés par les enfants, alors les élèves sont plus exacerbés qu'au collège ou au lycée. Ils sont plus atténués. Mais lorsqu'un élève a envie de dire les choses, comme il y a une proximité également avec son enseignant, son maître, il va être plus dans l'affectif, il va rentrer à l'activité pour faire plaisir au maître, ou il va sortir, il va se mettre en colère, etc. C'est peut-être plus fort, et ça se traduit par des comportements de sortie. Voilà. Je sors de l'activité, ou je sors du groupe, ou je boude. C'est peut-être ces comportements qui sont là. Et l'enseignant, à ce moment-là, va peut-être essayer de réintroduire l'enfant dans le groupe. L'élève qui est en difficulté, en lecture, etc., l'éducation physique va peut-être être aussi un levier pour valoriser des qualités qu'il ne retrouve pas ailleurs. Peut-être compenser, peut-être une forme de compensation.
Donc, même question, Michel, pour le collège, comportement type d'élèves en difficulté.
Alors, j'ai plutôt choisi, au regard du temps qui était imparti, de traiter trois axes de réponse au travers de trois analyseurs. Premier analyseur, le collège, c'est l'entrée dans l'adolescence. Ce que M. le recteur Lacombe a signifié tout à l'heure, hein, le regard des autres, le travail devant les autres. Et donc, les comportements typiques des élèves face à cette entrée dans l'adolescence et à la construction de l'estime de soi, qui est un processus. Hein. On ne s'estime pas de soi comme ça, immédiatement, de façon innée. Et comme tout processus, ça monte, ça descend, c'est pas linéaire. Et donc, et là je vais parler à des professionnels hein, qui voient des élèves tous les jours, on sait bien que présenter des productions seules devant la classe est souvent suivi d'un rejet de participation de la part d'un certain nombre d'élèves qui se reconnaissent en difficulté et donc ne se sentent pas en capacité d'affronter le regard, non pas d'un, mais de 25 ou 26. Alors il y a des manières de faire, hein, qu'on pourrait détailler, mais ce n'est pas le lieu ici, pour permettre de compenser cette mise en danger affective. Le deuxième analyseur, c'est la notion de sens. Et je parle bien de sens des apprentissages et non pas de sens des activités. Tout à l'heure, on a parlé de lancer de poids en hiver, le matin. Eh bien, on pourrait multiplier ces exemples où les élèves n'ont pas de sens construit pour ce qui leur est proposé. Alors l'exemple le plus typique, pour moi, qui ai vu des dizaines et des dizaines de leçons de combat, ce sont les jeunes filles adolescentes à qui on demande d'immobiliser leurs petites camarades en appuyant fortement sur la poitrine naissante de la petite adolescente qui est là et qui me regarde avec des yeux vides en se demandant pourquoi on me demande à moi, jeune fille, de m'affronter, alors que ce n'est absolument pas dans ma compréhension de ce qui m'est proposé. On est bien là, donc, dans une problématique du sens, c'est-à-dire la question du « pourquoi pour moi ?» C'est pas « pourquoi ?» mais c'est « pourquoi pour moi ?» qu'il faut impérativement se poser lorsque vous, professionnels, vous choisissez tel ou tel support d'activité et de le traiter de telle ou telle manière. Et enfin, troisième analyseur, donc j'ai été relativement vite, c'est quelque chose autour de la théorie, des théories de la motivation et des stratégies d'auto-handicap. Alors je ne vais pas vous refaire toute une conférence sur les théories de l'apprentissage. Il faut savoir qu'en gros, les élèves fonctionnent sur, je résume à grands traits, fonctionnent sur deux grands axes. Le premier, c'est plutôt la recherche de progrès par l'apprentissage. Et le deuxième, c'est plutôt la comparaison sociale autour de la performance produite. Et donc derrière, il y a des corrélations. Qui sont implicites dans l'esprit des élèves. Souvent, ceux qui sont dans la recherche de progrès par l'apprentissage croient que l'habileté qu'on leur demande de construire, elle est malléable. Donc, il peut y avoir des progrès, donc il faut que je m'engage. Et par contre, ceux qui sont sur le but de performance, ils sont plutôt sur la corrélation, c'est plutôt en corrélation avec l'idée qu'ils ont que, au fond, l'habileté, c'est un don. C'est-à-dire, je peux travailler de toute façon. Je n'y arriverai pas, ou pas mieux. Alors, je vais vous prendre un exemple qui va vous parler tout de suite, mesdames, messieurs. Souvenez-vous de la jeune fille qui, en sport-co, arrive à la ligne de marque au handball ou sous le panier au basket, et qui, plutôt que de tenter sa chance parce que finalement, elle a réussi avec son équipe à se mettre en situation favorable, eh bien, refuse de tenter le tir et ressort la balle vers, sans doute, un de ses camarades. Oui. Un garçon, forcément, plus voilà, reconnu par elle comme plus habile, et donc lui laissant la responsabilité de l'affaire. Voilà. Alors, tout à l'heure, Bernard disait que j'étais extrêmement sensible à cette, comment on va dire ça, au mauvais traitement des élèves. J'avais produit un petit bouquin il y a quelques années sur la maltraitance des filles en EPS. Donc c'est quelque chose qui effectivement me parle beaucoup. Voilà, j'ai été court, Et j'ai donné quelques exemples.
Tu peux passer le
micro. Absolument.
C'est la même question, et même comment dit des élèves de lycée ou de lycée professionnel qui seraient en difficulté.
Oui, alors en tant qu'enseignante et tutrice, parce que je sais qu'il y a des jeunes enseignants ici, je voudrais juste d'abord rassurer en disant qu'un élève en difficulté en EPS, quand c'est une difficulté passagère, c'est régulier, c'est normal. À partir du moment où on veut faire évoluer les élèves, c'est normal qu'à un moment donné ils soient en difficulté puisqu'on leur propose quelque chose dont ils ne sont pas capables de résoudre immédiatement. Ce qui va plus poser problème, effectivement, c'est quand ils sont confrontés de façon persistante à des difficultés. Et là, on peut voir un sentiment d'échec. Alors, quels sont chez... Enfin, en EPS, j'ai un peu réfléchi à quels étaient ces élèves qui étaient en difficulté persistante. Alors, je pense qu'il y a les élèves, on pourrait les qualifier de malhabiles, même si, comme disait M. Canvel, malhabiles dans les activités, finalement, qu'on leur propose. Les élèves aussi qui ont peut-être des ressources déficientes. Alors là, je pense aussi à nos élèves qui sont en surpoids, par exemple. Il y a aussi les élèves qui ne sont pas à l'aise avec leur corps ou l'image que leur envoie leur corps. Et puis aussi, je trouve en EPS, les élèves qui ont des difficultés sociales, qui ont des difficultés à s'intégrer dans un groupe. Chez nous, c'est vrai que c'est très prégnant et ils peuvent être rapidement en difficulté. Alors, quelles sont leurs conduites typiques pour répondre à ta question? Je me suis rendu compte, petit à petit, et c'est vraiment renforcé par votre témoignage, M. Marois, qu'un élève qui est en difficulté persistante en EPS, il peut entendre chaque nouvelle confrontation à une situation, à sa difficulté, comme une agression. Alors j'emploie un mot fort, mais c'est vrai qu'il y a 2 ans, pour ceux qui étaient présents et ceux qui s'en souviennent, on avait montré une vidéo d'une élève, d'une jeune élève de seconde, qui avait fait un slam, donc un poème parlé, c'était sur ce qu'elle ressentait en fait à chaque fois qu'elle recevait un devoir noté. Elle avait appelé son slam encore raté, et c'était parce qu'à chaque fois elle avait des mauvaises notes. C'était une élève très scolaire, très sage, qui ne posait aucun problème de comportement. Les propos de son slam étaient d'une violence très très importante, insoupçonnée. Et je me suis rendu compte qu'en fait, cet élève, à chaque fois qu'on lui donnait un devoir avec une mauvaise note, on l'agressait. Alors, par cette agression, comment on réagit tout individu? Je pense que face à une agression, on réagit, soit on attaque, soit on fuit. Et c'est pour ça qu'on retrouve les conduites typiques aussi que disaient Patrick et Michel. C'est soit, si on est dans l'attaque, on va refuser une tâche catégoriquement. Des fois, en tant que professeur, on ne comprend pas trop pourquoi il refuse comme ça la tâche. On peut être dans la provocation du professeur, de ses camarades. On peut aussi être attaqué soi-même finalement, c'est-à-dire en étant résigné, fataliste, de toute façon je suis nul, pour moi c'est une forme un peu d'agression. Ou effectivement on est dans la fuite, et à ce moment-là on va détourner la tâche, on va essayer de faire autre chose que ce qui est demandé, on va essayer de se faire oublier, on va oublier sa tenue de PS, voilà, des choses comme ça. Donc souvent je trouve que c'est des comportements soit liés à la fuite, soit à la... une certaine forme d'agressivité pour se défendre. Alors j'ai juste aussi réfléchi un peu à la question, est-ce que c'est différent au collège et au lycée? Parce que j'ai fait du collège, 9 ans de collège en amont. Peut-être que ce dont j'ai l'impression, les collègues dans leur tête seront d'accord ou pas, c'est que plus les élèves sont confrontés à des situations où ils sont en difficulté, plus leurs mécanismes de défense vont être ancrés. Du coup, je trouve qu'au collège, parfois j'avais des élèves qui s'énervaient très rapidement, qui refusaient très rapidement. Mais en discutant avec eux, en pointant le doigt sur ce qui n'allait pas, j'arrivais assez facilement à les remettre dans la situation d'apprentissage, à les remettre en tant qu'apprenant. Je trouve qu'au lycée, au lycée professionnel, parfois, ils vont même anticiper sur le fait de ne pas vouloir souffrir, entre guillemets, j'y vais peut-être un peu fort, mais... Et du coup, ils vont avoir des problèmes d'absentéisme, avoir des problèmes de retard, d'oubli de tenue. Et quand on arrive à discuter avec eux, je pense qu'il faut plus de temps pour dénouer tout ce qui a fait qu'ils ont ancré ces mécanismes de défense. Il faut prendre du temps à déstructurer toutes leurs représentations et leurs habitudes.
Je crois qu'on vit dans les LP un taux d'absentéisme important, et en EPS, on n'échappe pas.
On n'échappe pas.
On n'échappe pas, bien sûr. Dans la voie professionnelle, une des stratégies, c'est de ne pas venir. Enfin, pas que dans la voie professionnelle, mais une des stratégies, c'est de ne pas venir en cours. Alors, j'espère que vous ne serez pas choqués par cette deuxième question qui est vraiment d'interroger non pas les bosses mais les creux. Quelle attitude ou quelle erreur pédagogique a été, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire dans la prise en charge de ces élèves qui ne réussissent pas en EPS? Patrick?
Oh, alors d'abord, je vais peut-être remettre en contexte le professeur des écoles et sa formation hein, pour l'enseignement. Olivier était en face de moi. Il faut savoir qu'en M1, le temps de formation, c'est 36 heures disciplinaires. L'essentiel, c'est pour la préparation au concours. Et ensuite, en M2, c'est 16 heures. Donc voilà, avec cet horaire-là, qu'il faut partager, on partage les heures de formation avec les disciplines. Mais c'est-à-dire qu'il est, difficile de faire des choses extraordinaires, mais ce que je veux dire, et je le dis avec beaucoup d'affection pour mes collègues du premier degré, parce qu'il se fait des choses remarquables au niveau du premier degré en éducation physique, cette bonne volonté leur permet de faire des choses de grande qualité aussi. Donc, par rapport aux erreurs à éviter, je vais dire que souvent le problème qui est posé à la tâche est trop difficile, trop complexe. Le problème, lorsqu'il est moteur, avec la formation qui n'est pas suffisante, une formation qui n'est pas suffisante, le professeur des écoles n'a pas les moyens, n'a pas les informations suffisantes pour identifier les difficultés de l'élève et en plus les amener à le résoudre. Ce qui fait que, en voie de conséquence, il va minimiser l'exigence de la tâche, quitte à rendre cette tâche totalement plate pour tous. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'apprentissage possible, puisqu'il n'y a pas de difficulté à résoudre. Parce qu'il va ajuster la tâche à l'exigence du plus faible. Voilà ce qui peut se passer. Autre comportement, c'est-à-dire qu'il va mettre à ce moment-là plus l'accent sur ce qu'on va appeler, on se comprend bien, les compétences méthodologiques et sociales, plutôt que sur les exigences motrices, en forme de compensation. Un des travers également qui peut arriver, c'est que, se sentant pas suffisamment expert, il va externaliser cet enseignement. Cet enseignement va être confié à des experts du monde sportif, à des brevets d'État, etc., etc., parce que là, il va reconnaître des compétences et reconnaître que ces personnes-là ont des compétences techniques que lui n'a pas. Voilà un petit peu les quelques erreurs qui peuvent être reconnues dans le premier degré.
Michel, dans ce qu'on voit de profs de collège, quelles erreurs il ne faut pas commettre?
Alors, il ne faut pas être prescripteur. Je veux bien être prescripteur. Trois, quatre points. Le premier, c'est proposer des mises en situation aux élèves qui ne génèrent pas plus de perdants que de gagnants. Donc, j'ai une sainte horreur, oserais-je dire, des montées-descentes que je vois en permanence, qui stigmatisent évidemment au fur et à mesure que ça se passe et qui laissent dans les coins des plus grandes difficultés toujours les mêmes élèves. Donc, par pitié, trouver des situations où finalement les élèves vont avoir l'impression d'avoir réussi des choses plutôt que d'être stigmatisés sur ce qui ne fonctionne pas. De la même façon, pour tous ceux qui envisagent de faire des journées d'intégration, ne proposez pas de tournoi sportif. Sinon, vous allez avoir des éliminés au fur et à mesure de la journée. Faites des courses d'orientation à plusieurs, faites de l'escalade si c'est possible, enfin, faites aider les plus petits par les plus grands, mais ne faites pas de tournoi sportif. Alors on finit la journée avec une équipe qui a gagné, et toute la journée on en élimine au fur et à mesure. Ça n'a aucun sens. Donc on n'agrège pas, on sépare. Alors ça part d'une bonne idée, hein. L'intention est bonne, mais ça produit le contresens. Deuxième chose, quelque chose autour de l'évaluation. L'évaluation, il faut qu'elle quitte le produit, la performance, pour s'intéresser au processus, à la démarche. C'est la manière dont l'élève s'y prend, seul, accompagné, avec ses collègues, avec évidemment l'enseignant. C'est la démarche, le processus qu'il met en œuvre qui est fondamental. C'est pas la performance réalisée. Et troisième temps, quelque chose autour de la place de l'enseignant. Moi, j'ai des enfants qui sont grands maintenant. Mais je suis sûr, l'aîné a 28 ans, je suis sûr qu'il a fait toute sa scolarité avec le qualificatif de pas autonome. Les élèves ne sont jamais autonomes. Quitte l'école primaire, ils ne sont pas autonomes, au collège, ils ne sont pas autonomes, au lycée, ils ne sont pas autonomes, et à l'université, ils ne sont pas autonomes non plus. C'est-à-dire qu'on ne définit jamais ce qu'est l'autonomie des élèves aux différents âges auxquels il est regardé. Donc, l'enseignant, il a la nécessité d'être présent pour faire construire l'autonomie. Donc, ne les laissez pas tout seuls et sans aide. L'autonomie est un processus qui se construit, dans lequel la place de l'enseignant est essentielle.
Alors pour ma part, je vais être assez brève parce que ça reprend pas mal les propos de M. Armand. Effectivement, j'avais pensé à deux choses à éviter. La première chose, effectivement, c'est la mise à nu de l'élève à travers sa difficulté. Donc là, on est dans ce qu'on peut reprocher dans les dispositifs comme la montée en descendante, comme la fameuse composition des équipes où c'est le dernier qui est pris, qui envoie, il s'est mis à nu qu'il a une difficulté à être intégré ou parce qu'il est mal habile. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense, c'est l'indifférence. Alors, quand je dis indifférence, je sais que les anciens DPS, on n'est pas du tout indifférent à la difficulté. Par contre, on peut parfois peut-être l'élève peut avoir l'impression qu'on est indifférent. Quand on lui dit, mais si, tu peux y arriver, c'est juste une question de volonté, c'est pas possible que tu n'y arrives pas, par exemple. Là, on est indifférent, en fait, à son problème. Ou ça peut être dans des activités de position collective, quand il y a un élève, pendant 10 minutes, il n'a pas touché une balle, ne pas s'en rendre compte, ne pas lui adresser la parole, ne rien mettre en place. Bon, là, je pense aussi qu'il y a, sans le vouloir, on est indifférent à sa difficulté. Et dans ces deux cas, je trouve que ce qui est... En fait, pourquoi on est dans une impasse? C'est parce que, là je reprends le propos de Michel Armand, c'est que l'élève est passif. En fait, il subit. On ne le rend pas acteur pour surmonter sa difficulté. On lui laisse entendre que c'est un état de fait et qu'il ne peut rien changer.
Alors, on va terminer sur une note plus positive en essayant d'échanger sur les bonnes pratiques, les démarches positives pour accompagner ces élèves qui sont en difficulté et qui vont donc, avec ces bonnes pratiques, l'être un petit peu moins. Je vais inverser l'ordre pour que ça ne soit pas toujours Eva qui soit obligée de répéter des choses que les autres ont dit. Donc Eva, une bonne pratique pour accompagner ces élèves en difficulté, on va faire lycée, collège, école.
Donc je serais vexée si vous ne reprenez pas mes propos. Voilà. Alors, par rapport aux bonnes pratiques, comme je suis un petit peu celle du terrain, on va dire, dans le groupe, j'ai essayé de faire quelque chose de très pratique et finalement assez personnel, donc très perfectible. Tout simplement témoigner un peu comment j'essaie de m'y prendre pour prendre en compte un élève en difficulté. Alors, vraiment, le leitmotiv, je crois que c'est le rendre acteur. En fait, c'est lui dire la difficulté, ça ne dépend pas que de moi, sa difficulté. Ça vient d'abord, c'est d'abord lui qui peut la résoudre, sa difficulté. Et moi, je suis là pour l'accompagner, pas pour la résoudre pour moi-même. Alors, j'essaie de m'expliquer, ça veut dire rendre l'élève vraiment acteur pour que lui-même, il s'approprie sa difficulté et qu'il s'engage, pour reprendre vraiment les propos de M. Corbett, qu'il s'engage pour surmonter sa difficulté. Alors, comment je m'y prends? Il y a plusieurs étapes. Alors, vous allez tout de suite dire, bah oui, ça prend du temps. Oui, ça prend du temps, par contre. C'est pour ça qu'il faut limiter, je pense, ces interventions à un nombre réduit d'élèves et puis étaler sur l'année. Hein. Tant pis, on ne peut pas toujours tout résoudre tout de suite. Donc, la première chose, c'est prendre le temps de faire un diagnostic avec l'élève. C'est-à-dire que, vraiment, là, ça impose un face-à-face et on voit ensemble, mais qu'est-ce qui te met réellement en difficulté? Et ça, c'est la première chose. Ensuite, quand on a ce face-à-face, ce qui me paraît très important, c'est lui enlever aussi sa culpabilité. Parce que j'ai remarqué qu'il y avait souvent une culpabilité inhérente quand il témoignait de sa difficulté. C'est-à-dire, bah oui, je sais, c'est pas normal si je suis nulle, si je ne sais pas servir en badminton. Ou, voilà, si je ne sais pas m'intégrer dans un groupe, c'est pas normal. Donc là, c'est essayer de voir avec lui comment on peut atténuer sa culpabilité. Tout simplement en lui disant, il n'y a pas de normalité ou de non-normalité, c'est comme ça, tu es la première victime et tu peux faire évoluer les choses. La deuxième chose, c'est identifier un contexte, à mon avis, avec lui, dans lequel il se sent capable de progresser. Alors le contexte, ça peut être une situation, par exemple, un aménagement de matériel dans une situation, Ça peut être aussi pour un élève qui a du mal à s'intégrer dans un groupe, peut-être lui laisser le choix de ses partenaires, ou lui permettre de fonctionner dans un groupe plus réduit. Vous voyez, enfin, en fonction de la difficulté, voire le contexte. Attention à ne pas lui offrir, enfin, lui promettre un contexte qu'on n'est pas capable de lui offrir. Il faut aussi, à un moment donné, dire « je suis honnête avec toi, ça je ne peux pas te l'offrir ». Par contre, trouver un contexte ensemble. Et dans ce contexte, définir un objectif personnalisé et accessible dans un temps défini. Dire, ben voilà, je pense que sur ce temps-là, je suis capable de faire ça pour surmonter ma difficulté, même si c'est étape par étape. Après cela, je pense que c'est important aussi d'anticiper peut-être avec lui sur le sentiment de gratification qu'il pourrait obtenir s'il réussit à son objectif. Parce que souvent, il y a de telles émotions négatives qui sont ancrées. Quand avec l'élève, on lui dit « si tu y arrives, quel sentiment tu vas avoir ? Tu seras peut-être fier de toi, tu seras peut-être content, voilà. » Souvent, ça lui décroche un sourire et se dit « ouais, c'est vrai que ça serait quand même sympa pour moi une fois, je me fasse plaisir en cours de test. » Ensuite, et là ça c'est ce que disait Michel Armand, une fois que tout semble bien roulé, semble bien fixé, il faut quand même garder un œil sur lui et l'accompagner dans la réalisation. Parce que forcément, il va certainement avoir des petits moments difficiles, des petits passages difficiles. Et donc, il faut l'aider à rebondir en l'aidant en se concentrant sur des repères précis, je ne sais pas moi, une règle d'action ou un temps défini, des choses comme ça. Mais pour qu'il puisse se concentrer là-dessus et puis qu'il puisse aussi réguler en cours la situation. Se dire, ben là, je pense que c'est trop difficile, je voudrais enlever ça, ok. Je voudrais enlever tant de répétitions, c'est trop difficile, ok. Ou je voudrais en rajouter, au contraire, parce que finalement, je me sens bien. Voilà, et puis pour finir, très important, comme on fait avec tous les élèves, faire un petit bilan avec lui personnalisé à la fin, pour voir un petit peu sa démarche, comment il a pris sa démarche, apprécier ses progrès, bien sûr, et envisager des perspectives. Voilà une possibilité parmi eux.
Merci, je crois que dans toutes les pistes que tu évoques, là, ce qui ressort, c'est vraiment que tu veux que l'élève s'approprie.
C'est ça.
C'est très clair dans ce que tu as dit. Merci. Michel, des
pistes. Pas mieux. Juste, quand même deux points.
C'est pas facile, si on
non, non, mais si, c'est enfin, non, c'est rien de facile. Mais, ouais, donc, je voulais insister sur la différence entre l'élève actif et l'élève acteur. Moi, des élèves actifs, j'en vois tout le temps. Des élèves acteurs, beaucoup moins. Donc, c'est pas. Attention à l'utilisation des mots. Les mots ont un sens. Donc, je suis entièrement d'accord avec le terme d'acteur, et je suis complètement en accord avec le fait qu'il chemine, et que ce soit lui qui choisisse aussi les degrés de difficulté dans lesquels il est prêt à s'engager. Ne perdons quand même pas la conscience que, très souvent, moi le vieil inspecteur que je suis, on est confronté à la problématique de l'éternel débutant. Donc, Soyons un peu ambitieux, n'ayons pas peur de proposer des choses un peu difficiles. Et là, je vais citer Hannah Arendt, parce que j'aime bien. Hannah Arendt, elle dit dans un article qui s'appelle « La crise de l'éducation », elle dit « L'éducation, son rôle, c'est la continuité du monde, donc faire comme, mais c'est aussi le renouvellement du monde, donc faire autrement. » Donc, ça doit nous guider au quotidien. C'est-à-dire s'appuyer sur ce que les élèves savent faire comme, et aussi proposer un truc en plus. Et puis le deuxième point, et je m'arrête, parce qu'il est fondamental pour moi, c'est qu'il faut faire la distinction entre faire et faire apprendre. On n'est pas dans une répétition de gestes techniques dans une APSA particulière, mais on est bien dans l'apprentissage de principes, de règles, qui permettront de développer des conduites motrices. Je vais prendre un exemple pour vous, les professionnels, qui ça va parler au quotidien, dans votre quotidien. Le principe de liaison course-impulsion, eh bien, on peut très bien le voir dans l'activité basket, dans l'activité handball, dans l'activité volley, au saut en longueur, au saut en hauteur, au triple saut, et à chaque fois, ce n'est pas la même chose. Pour autant, le principe organisateur de la motricité, c'est le même, mais ses mises en œuvre dans les différentes activités ne sont pas les mêmes. Donc je peux très bien ne pas réussir à cet endroit-là, mais travailler la même chose à un autre endroit et me trouver en réussite. Donc n'hésitez pas à varier les supports, le support n'étant pas la fin en soi,
mais juste un moyen pour transformer les élèves.
Patrick, les bonnes pratiques dans le contexte du premier degré pour accompagner ces élèves dits en difficulté?
Alors naturellement, je souscris pleinement à ce qu'a dit Eva sur la bienveillance et sur les encouragements. Ils sont naturellement valables aussi sur le premier degré. Je vais peut-être axer deux, trois idées sur le professeur des écoles. Je pense qu'il faut que nous l'encouragions, hein, c'est notre quotidien, on l'encourage à mettre ses élèves en situation d'expérience motrice. Il faut absolument les encourager à faire, et déjà c'est quelque chose de fondamental et de premier. Même si on constate que les choses ne sont pas parfaites sur le premier degré. On ne va pas attendre que les choses soient parfaites pour faire. Donc on est également dans la bienveillance par rapport aux enseignants. Donc on va les encourager, on va leur proposer des outils, des éléments, des informations, des documents pédagogiques et une proximité que l'on a avec les conseils pédagogiques pour les amener à faire de l'enseignement et d'aller vers un enseignement plus qualitatif. Donc s'assurer qu'il y a un ton moteur, effectif, satisfaisant, permettant une expérience motrice. Voilà, sur le premier degré, une première idée. Comme le disait le recteur Marois, également proposer une éducation physique équilibrée sur les quatre champs d'apprentissage. De manière à ce que les élèves aient des expériences motrices variées et complémentaires, mais également pour que chacun puisse se reconnaître dans un domaine dans lequel il se sent mieux. Ça, c'est fondamental. Proposer des situations qui ne mettent pas en opposition ou en hiérarchie. Ce qu'a dit Michel, donc proposer plutôt des situations de coopération et pas d'opposition. Et s'abstenir de hiérarchiser les élèves les uns par rapport aux autres. Et ensuite, on va aller vers le qualitatif, vers l'amélioration de la tâche et faire identifier le problème posé à l'élève et les solutions. Et ça, on va travailler avec les enseignants dans ce sens-là.
Merci beaucoup. Je vous remercie vraiment.